RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
L'after, jusqu'à 23h, François Pinet.
Alors, de 21h à 23h, vous le savez maintenant, pendant l'été, nouvel horaire pour l'after, mais on ne s'arrête jamais, on est là même le dimanche soir, à la radio, sur RMC, ou si vous préférez nous suivre à la télé, c'est sur BFM Sport que ça se passe. On vous attend nombreux, les amis, avec un gros programme aujourd'hui. Bon courage, évidemment, si vous êtes au travail, et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Il est sorti du train, il est avec nous, l'homme de la SNCF désormais. Il n'a pas pris sa petite casquette de la SNCF, c'est Sam Hippoix qui est avec nous. Salut Sam.
Bonsoir, tu vois.
Comment ça va?
Bah, très bien, très bien.
Tu as passé quand même 4 heures dans un train pour un trajet d'un quart d'heure.
D'un quart d'heure, ouais, effectivement. Bah, j'ai su garder mon calme. Il y a eu un problème d'électricité et d'aiguillage. Donc, ce qui a fait que... On soit resté bloqué dans le train, certaines personnes se sont énervées, mais moi je suis...
T'as pu nous écouter quand même?
J'ai su...
Ou pas?
Ben non, malheureusement non, pas du tout, mais j'imagine. En tout cas l'émission s'est faite, parce que c'était ça mon inquiétude, il n'y a pas eu de problème.
Ah non, on a même remplacé...
Avant, il a été très très bon hier.
Je te conseille de réécouter l'émission en podcast si tu veux, Samuel. Les prochaines grèves SNCF, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire plus?
Ah ça, par contre, non, je crois
que... T'es resté 4 heures dans un train, t'as pas les infos.
J'ai pas d'infos.
À la rentrée, les gars, à la rentrée.
Lui, il s'est taillé un corps d'athlète parfait pour les vacances. Le problème, c'est qu'il n'a pas de vacances. C'est Jonathan McCarthy.
Salut François, salut Sam.
Ciao, ciao.
Jamais de vacances.
Non, mais attends, on vit des choses formidables. Quelle vie. Cette nuit, 4h du matin, l'UFC 227 sur SFR Sport.
Ouais,
c'est vrai. Petit JD Lachaud qui met KO Cody Garbrandt. Et puis là, le match de tonton Bielsa, que demander de plus, quoi.
Donc t'as pas de vacances et tu dors pas non plus.
Non, mais c'est du plaisir, c'est du plaisir. Quelle vie on a. Et je me suis fait la nuit dernière, il y a quelques nuits, un match de Boca contre Aldo Vigo. C'était extraordinaire.
Ouais, le plaisir, c'est sur Jonathan McCarthy. Nous sommes à 5 jours de la reprise de la Ligue 1. Est-ce qu'il va y avoir du plaisir en Ligue 1 cette année? Cette saison va-t-elle être excitante? Est-ce que notre cher championnat va profiter des effets positifs du titre de champion du monde? Ce sera dans la première partie de l'after. Dans 45 minutes, ne manquez pas ce rendez-vous. Ça risque de diviser Twitter, ça risque de diviser au 32-16. On passe Bielsa sur le grill. Sujet très sensible, vous le savez. Il divise.
Je trouve ça un peu insultant de faire ça. Mais bon.
Pourquoi? De parler de Bielsa?
Non, mais de le passer sur le grill comme si un homme comme ça est reconnu comme un des plus grands entraîneurs par
les plus grands acteurs
du foot mérite d'être passé sur le grill.
On doit
Jésus-Christ,
parler de
Marcelo
Bielsa. Bah non, mais on parle pas de Jésus-Christ là, on parle de Marcelo Bielsa.
C'est tout comme quand on parle de football.
On le met sur la croix, Jésus-Christ.
Mais comment
Marcelo
Bielsa de Jésus-Christ
a dirigé et gagné son premier match officiel avec Leeds en deuxième division. Est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Déchaînez-vous sur Twitter, hashtag RMC Live, sur l'appli RMC Direct Studio.
Consterné.
Ou encore au 32-16. Le grand retour aussi dans l'after de Simone Rovera. Il a accepté de lui de raccourcir ses vacances.
Enfin, il en a été longue en plus,
pour
la pauvre.
Pour être avec nous, et oui, puisqu'il n'a pas vécu la Coupe du Monde en tant qu'Italien. À 2 semaines de la reprise de la Serie A, on fera un point complet sur le championnat d'Italie avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, bien évidemment, à la Juve, mais pas seulement. Le réveil peut-être des clubs de Milan. Le chantier qui attend Carlo Ancelotti à Naples. Oui. Tout ça, ça sera vers 22h. Sans oublier, évidemment, le Mercato Show avec Sarah Griffon et un nouveau départ de l'AS Monaco. On vous dira tout ça aux alentours de 22h30.
Je suis très inquiet parce que Simone, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il a eu des très longues vacances. Je me demande avec combien de kilos en plus on va le retrouver.
Mais arrête avec ton indice de masse graisseuse. Je sais que
il parle beaucoup de régime, Simone, aussi de régime qui doit commencer mais qu'il ne commence
attention,
jamais.
Attention, c'est un Italien, il fait très attention à sa ligne.
Oh, tu l'as jamais vu, Simone.
Tu l'as jamais vu.
Tu vas voir ça depuis
qu'il est là. Branchez-vous à 22h sur
la petite.
Vous allez avoir la réponse.
Il a dû laisser aller.
Bah, je pense qu'il a fait la grossesse en même temps que sa femme, mais.
Mais ça arrive souvent, figure-toi. Moi, j'ai pris 5 kilos pendant la grossesse.
Ah, lui, mais toi, tu restes fit, François.
J'ai perdu 5 kilos surtout. J'ai dû bosser.
Tu les as pris où, toi, des cheveux?
C'était ton projet.
Non, j'ai perdu des cheveux. Voilà, c'était le projet. Pour débuter l'after en beauté, les images de la victoire de Manchester City. C'était un des chocs de la journée en football lors du Community Shield. Match qui oppose le champion d'Angleterre, vous le savez, au vainqueur de la Cup. C'était Chelsea. Le City de Guardiola s'impose 2-0 face au Chelsea de Sarri grâce à un doublé de l'argentin Sergio Aguero qui a trompé deux fois son compatriote Caballero. 5e Community Shield de l'histoire pour City. À noter aussi la titularisation de Benjamin Mendy qu'on entendra un petit peu plus tard, qui a joué tout le match. Emeric Laporte était également titulaire côté Citizens. Alors côté Blues, c'est une révolution qui débute avec l'arrivée de Sarri. Il manquait quand même pas mal de joueurs comme Hazard, Courtois, Kanté ou Giroud, mais déjà Manchester City, champion en titre, champion d'Angleterre. Marque les esprits.
C'est normal, ils sont beaucoup plus prêts. Ça fait Guardiola entame sa troisième saison. Alors c'est vrai que l'effectif a été renouvelé encore l'année dernière, mais là je pense que c'est une équipe qui va arriver à maturité vraiment. Et donc quand je parle de maturité, hein, ça, ils sont champions en titre, mais je parle de sur la scène européenne. Et puis Chelsea, c'est un projet en devenir. Sarri, on sait que ça va prendre un peu de temps à instaurer son style. Et puis il y a encore des joueurs. Je me demande s'ils ont tout à fait leur place dans cette équipe-là. On a vu sur le deuxième but le marquage de David Luiz. C'est quand même très compliqué.
Ouais. Non mais et surtout on voit la différence quand même, un entraîneur qui est déjà là, Guardiola avec Manchester City, on voit que c'est déjà rodé, c'est déjà une philosophie que les joueurs ont déjà imprégnée. On voit qu'avec Sarri, il y a encore il y a beaucoup de travail à faire, notamment dans le premier but d'Aguero. Vous avez vu comment ils défendent, mais non, ils ont qu'à défendre encore jusqu'à la ligne quoi, ils étaient vraiment bas.
Je vais vous dire
et ce qui est étonnant quand même, c'est que quand on voit Aguero qui marque encore deux buts alors qu'on a vu il y a 3 semaines lors de la Coupe du monde, il cirait le banc, ça ne rien comprendre.
Bah, c'est pas que c'est un à comprendre, c'est que il y a une concurrence. Non, mais moi j'aurais voulu qu'il soit titulaire, il y a pas de souci, mais il y a une concurrence qui est telle en Argentine, et t'as surtout un entraîneur qui a été totalement largué, donc et puis on va juste se rappeler, faut pas s'inquiéter hein, au début Sarri au Napoli, bon, il a des bons résultats, mais c'est pas non plus le feu tout de suite hein, c'est pas le Napoli qui nous a enthousiasmé dès le début.
Oui, donc on s'inquiète pas pour Chelsea.
Non.
Bah, disons que je sais pas si on va lui laisser le temps. Je pense qu'il est dans l'obligation d'avoir des résultats quand même, de rassurer.
Un projet de jeu aussi, hein, pour un projet de jeu.
Pour bien connaître Sarri, vraiment, je pense vraiment qu'il l'a pas signé à Chelsea. Non, mais c'est un de mes entraîneurs favoris, donc je pense vraiment qu'il n'a pas signé à Chelsea si on lui a pas laissé la garantie d'avoir un petit peu de temps pour mettre en place ce dont il souhaite mettre en place. Tu sais que ce mec, c'est un fou. Quand on parle, on va parler de Bielsa. Ce mec, c'est un fou furieux. Tu sais que il a failli se barrer du Napoli plein de fois parce que par exemple il voulait pas que il était voir De Laurentiis en disant je veux pas qu'on aille faire une tournée aux États-Unis, ça va pas, moi je veux qu'on reste là, je m'en fous du pognon, on reste, on se prépare, on va pas faire les oeuvres aux États-Unis. Le mec il est lui aussi là la tête dure.
La première ligue qui débutera sur les antennes de RMC Sport hein, dès vendredi prochain, à ne pas rater cette première ligue. Il y aura notamment Manchester United Leicester pour lancer les hostilités, ça sera le vendredi 10 août à 21h. Chelsea ira à Huddersfield le samedi, et puis Liverpool West Ham ou encore Arsenal Manchester City, déjà un choc pour commencer à 17h, ça sera le dimanche 12 août. Sarah Griffon, d'ailleurs, vers 22h30, viendra nous faire le point sur le mercato anglais, puisque tu le répètes à longueur d'after, mais tu as raison, il faut le préciser, le 9 août, donc veille de la reprise du championnat, c'est-à-dire jeudi prochain, c'est terminé, les Anglais ne pourront plus recruter, donc on fera un point assez complet avec Sarah Griffon vers 22h30 dans le mercato show. On va écouter une réaction après la victoire de Manchester City, celle de Benjamin Mendy, qui était titulaire.
Je me devais, et pour le club aussi, de reprendre plus tôt pour être prêt pour ce jour, et c'est ce qui a été fait. J'ai discuté avec Pep, avec le staff médical aussi, et on s'est tous mis d'accord, et moi je pouvais que être content, car c'est que bénéfique pour moi-même et pour l'équipe aussi.
C'est comme une nouvelle recrue en quelque sorte, hein, Benjamin Mendy pour Manchester City.
Bien sûr, oui. Ouais. Il a quasiment pas joué l'année dernière, il s'est blessé très tôt.
Donc il continue à gagner, quoi.
Donc, il continue à gagner. On parlera évidemment de ces joueurs français, de ces champions du monde, dans les infos du jour aux alentours de 22h40, qui ont repris un petit peu plus tôt que prévu, qui ont raccourci leurs vacances. Je sais que ça te tient à cœur, Samuel.
Oui, exactement.
Toi qui rates des émissions parce que t'es bloqué dans les trains, tu es quand même très
pointilleux
sur les vacances des joueurs de l'équipe de France.
Tu vois que j'ai pas eu tort là-dessus. Beaucoup après, c'est ça.
On va en parler.
Je pense qu'il y a le ballon d'or, le ballon d'or moral. Non, je rigole. Mais il y a quelqu'un qui a montré l'exemple, qui est revenu plus tôt, qui a donné le ton, c'est le merveilleux Hiroki Sakai.
Hiroki Sakai, ouais. Mais bon, il n'est pas allé aussi loin que Benjamin Mendy en Coupe du Monde.
Oui, mais ouais. Hein, doucement quand tu parles de Bielsa et de Sakai. Hein.
On va parler de Bielsa dans un instant. Mais d'abord, c'est la Ligue 1 qui nous intéresse. Elle reprendra en même temps que la Première Ligue. Avec, on l'a dit, vendredi, Marseille-Toulouse. Ça sera l'ouverture du championnat. Une saison, tu imagines, très excitante, Jonathan. Jingle.
Je pense que pour être entraîneur du Paris Saint-Germain, il faut accepter de manger quelques couleuvres. Et je pense que lui, c'est pas forcément son profil.
Tu peux pas réussir.
Tu les as avalées, les couleuvres.
Tu peux pas réussir si tu as d'avaler des
couleuvres. C'est pas trop mon truc, non.
Tu ne peux pas réussir.
Bah, écoutez.
Alors, excitante cette saison de Ligue 1?
Moi, très franchement, j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Alors, on a eu quand même une très belle saison dernière de football. Il y a eu la Ligue 1, il y a eu l'épopée européenne de Marseille, il y a eu la double confrontation au Paris Real, il y a eu la remontée lyonnaise sur la deuxième partie de saison avec le 4-4-2 grâce à l'after. Il y a eu les playoffs pour la descente et pour la montée en Ligue 1, Ligue 2. On a enchaîné sur une Coupe du Monde qui a été vraiment une belle Coupe du Monde, et spécialement pour nous. On pourrait se dire qu'on est un petit peu gavé de football, qu'on a besoin de vacances, mais non. Moi, j'ai vraiment hâte que le championnat reprenne parce que je pense vraiment qu'on va vivre une très très belle saison de Ligue 1. Pourquoi? Alors, je vais essayer d'être un peu structuré. J'ai identifié 5 raisons. Je vais lister 5 raisons. C'est pas exhaustif, hein. Je pense que chacun, sur le hashtag RMCLF pourra nous donner une raison qui lui est toute personnelle. Mais je vois 5 très belles raisons d'être super excité du début du championnat. La première raison, c'est, il y a beaucoup de questions et je me demande vraiment comment vont évoluer les équipes qui vont jouer, les 3-4 premières places. À savoir, Paris, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Même si c'est excitant de voir le nouveau Paris Saint-Germain avec Tourelle. Mais comment Lyon va se débrouiller cette année? C'est une équipe qui a été chamboulée l'année dernière et qui a changé de paradigme, qui a vendu les bijoux de famille, Lacazette, Gonalons, Umtiti et compagnie, Tolisso, pour faire venir des jeunes qui sont des bons jeunes en devenir, mais qui avaient besoin d'une expérience. Je pense à Depay, à Traoré, à Tété et compagnie. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ces jeunes vont donner à une année N+1. Je pense que Marseille, avec un groupe qui, au final, n'aura pas connu de départ, et ça, je pense que c'est la première victoire de l'OM pour l'instant, c'est d'avoir gardé tous les bons joueurs, Thauvin et compagnie. Je me demande comment ça va se passer, s'ils vont surfer sur la dynamique de la deuxième partie de saison de l'année dernière, comment ça va se passer en Coupe d'Europe, qui ont goûté à ce parfum d'une finale européenne. Je pense que l'Europa League, ils vont la jouer à fond. Le mercato n'est pas terminé, je pense que Marseille va être encore très compétitif. Il y a beaucoup de questions sur l'AS Monaco aussi. L'AS Monaco, c'est un perpétuel chantier, c'est un cycle qui se renouvelle chaque année avec des pertes de joueurs. Là, on l'a dit hier, je suis un petit peu plus inquiet parce que Monaco a perdu l'ensemble de son milieu de terrain, mais on est quand même excité de voir ce que Jardim va faire de cette équipe-là. Donc je pense que vraiment, pour le podium, on va avoir une belle bataille. La deuxième raison, c'est que je pense que cette année, je trouve peut-être que les outsiders, ceux qui vont jouer 4, 5, 6, peut-être les trublions pour le podium, je pense que ces outsiders-là, ils sont plus séduisants que l'année dernière. Je pense d'abord à Rennes. Rennes qui se structure bien. Alors on a eu Olivier Létan qui nous a sorti des robinets d'eau tiède la dernière fois, c'est vrai, mais je pense vraiment que il travaille bien, il fait un super boulot. Quand tu regardes le recrutement, c'est cohérent. Je suis ravi qu'ils aient pris Clément Grenier. Je pense que Clément Grenier, c'est un joueur de classe et qui va bien se relancer à Rennes. On est pressé de voir ce que la Mouchi va donner avec une intersaison complète. Il y a eu des choses qui ont été très prometteuses l'année dernière. Ils sont bien repris, il a repris une situation qui était un petit peu compliquée, ça s'est bien goupillé. Donc j'ai hâte de voir ce que Rennes va donner. Je pense que Saint-Étienne, on se rappelle tous de leur saison dernière catastrophe. Puis ça repart avec Gasset, des recrues qui ont fait du bien à l'équipe, des joueurs comme Debuchy et Mvila qui vont rester. Je pense que Saint-Etienne, c'est une équipe, quand tu regardes leur 11 de départ, il n'y a pas beaucoup de 11 de départ en Ligue 1 qui vont être aussi forts que Saint-Etienne. J'aime beaucoup le milieu de terrain. Pour moi, l'année dernière, c'était une de mes paires de récupérateurs préférés, Selnes et Mvila. Donc on va voir ça, il y a Kazri qui est arrivé, Cabella va sûrement les rejoindre, ils vont vraiment avoir une super belle armada. Et puis il y a aussi, je pense, les résultats sont peut-être pas extraordinaires en match amicaux, mais Nantes avec Cardozo, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez vu, ça envoie du jeu quand même. C'est une équipe qui joue super bien. Franchement, je me suis pas embêté une seule fois en les voyant, alors que c'est que des matchs de préparation. Donc ces outsiders là, à mon sens, ils sont plus séduisants que l'année dernière. La deuxième raison, c'est que je pense c'est que il y a beaucoup d'équipes cette année, tu regardes un petit peu quels vont être leurs styles. T'essaies de deviner quels vont être leurs styles en regardant les matchs de préparation, en regardant la philosophie du coach, en regardant le recrutement. Il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir jouer. On est loin de ces années un peu de où on se faisait des multiplex le samedi en commentant des 0-0. Non, là je pense que vraiment j'ai listé au moins 10 équipes qui vont avoir de l'ambition dans le jeu. Nantes, j'en ai parlé, Rennes, l'OM, l'OL, Dijon avec le binôme Dalaglio-Gourcuff que je trouve super séduisant sur le papier.
Ils ont pas encore joué.
Non, mais on les a vus en préparation. Mais on sait que Dijon ça joue. La dernière, c'est la 5e attaque de Ligue 1. Dalaglio, il va pas changer de philosophie comme ça en mercato. Amiens avec Pélissier, parce que même si c'est pas non plus le spectacle à chaque fois, ça reste quand même toujours super cohérent. Et j'ai hâte de voir ce que va faire Pélissier à son année N+1 en Ligue 1, parce que je pense que c'est un des noms qui compteront dans le monde du coaching et des entraîneurs français dans les années à venir. Vieira avec Nice, Strasbourg même dans un style un peu particulier, mais qui propose toujours du jeu, Saint-Etienne et évidemment le PSG. Ça fait quand même une grosse dizaine d'équipes sur les 18 qui, on sait qu'on va pas forcément s'ennuyer à chaque fois et qu'ils vont nous proposer quelque chose à chaque match. Quatrième raison, c'est que quand on regarde
un petit 18, peu... 18, hein, il y en a 20.
Oui, excuse-moi. Ça, c'est un vœu pieux, tu vois, c'était un lapsus parce que je pense que la Ligue 1 devrait revenir à 18 pour être parfaite. Mais bon, quatrième raison, c'est que je pense que quand on regarde un petit peu bah, les effectifs, on a quand même des beaux joueurs dans le championnat. Alors, j'ai pas parlé évidemment des stars du PSG. Neymar, à mon avis, va revenir boosté par la Coupe du Monde. Je pense qu'on va avoir du très grand Neymar. Verratti qui revient fit, ça va être un très grand Verratti. On a hâte de retrouver notre Edinson Cavani, hâte de voir ce que va faire Mbappé, la manière dont il va continuer de progresser. Mais il y a aussi Dimitri Payet, pour l'instant, à part sur le dernier match, il est en feu. Nabil Fekir, moi, je suis ravi qu'il reste. J'ai envie de voir comment Oussem Aouar va poursuivre son évolution, parce que je pense que Oussem Aouar, c'est futur international et futur joueur dans le 11 titulaire de l'équipe de France, indiscutable. Gourcuff et Grenier qui retrouvent des clubs qui vont avoir un nouveau challenge, ça reste des beaux joueurs. Bon, la liste est pas exhaustive, mais on a quand même des bons joueurs dans notre championnat et des joueurs qui procurent de l'émotion. C'est ça qui est important. Nabil Fekir, je suis content qu'il reste parce qu'il procure de l'émotion. Quand tu le vois jouer, t'es content, c'est beau. Et enfin, la cinquième raison, c'est que je pense que l'Europe, cette année, je pense qu'elle va être en... Elle va être excitante. Tourelle, on va voir, mais je pense que le PSG, franchement, il y a des super ondes, il y a des ondes super positives qui se dégagent de ce Paris Saint-Germain là. On a parlé hier peut-être d'un exercice de communication, mais quand tu grappilles quelques infos auprès d'un ou deux joueurs, tu sens que ça se passe bien. Et moi, franchement, c'est là, j'ai jamais eu ce sentiment-là pour le Paris Saint-Germain à l'aube d'une nouvelle saison. Donc j'ai hâte de voir ce que le PSG va faire en Europe. J'ai hâte de voir ce que va faire Lyon en Europe. Alors c'est vrai que l'équipe est un peu jeune. Ils vont retrouver la Ligue des Champions, mais pourquoi pas être une sorte d'équipe sensation? Il y a des jeunes, ils sont quand même très bons. Je pense que c'est parce qu'on les voit tous les jours et on a tendance à penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais Ndombele, Aouar, Fekir, c'est de la bombe, je suis désolé, mais c'est des super joueurs, donc j'ai envie d'être enthousiaste. Je vais parler de l'OM, mais l'OM, évidemment, qu'ils vont vouloir refaire une épopée européenne. Rennes, l'étang nous a dit qu'ils allaient la jouer à fond. Donc vraiment, voilà, moi j'ai ces cinq raisons-là. Vous avez sûrement les autres, vous allez me les dire, mais j'ai vraiment hâte que la Ligue 1 reprenne et j'ai vraiment hâte de retrouver nos vendredis, nos samedis dans l'after et puis avec les auditeurs, avec tout le monde, parce qu'on a quand même si on crache beaucoup dessus, on a un beau championnat et en plus on va avoir les externalités positives de la Coupe du Monde. Samy, tu vas nous en parler, mais je pense qu'on y a tout qui est réuni pour qu'on ait une très grande Ligue 1.
Emballé, Jonathan, on a envie de le croire en tout cas, après ce discours en 5 points. T'as envie aussi t'es excité toi aussi par le début de cette
évidemment qu'on aime le football et surtout après cette Coupe du Monde qui a été quand même magnifique pour la France, on a envie que le football de championnat revienne. Mais maintenant, quand c'est excitant, oui et non. Quand tu es supporter d'une équipe où le recrutement est pratiquement bouclé, que l'effectif s'entraîne ensemble depuis le début de la reprise et que l'entraîneur véhicule un message de la gagne positive, oui, tu as envie. Mais imagine actuellement peut-être des équipes comme Nice, tes supporters de Nice, tes supporters de Monaco.
Tu te places sur un point de vue global.
Exactement.
Évidemment, il y a des clubs où ça marche un peu sur la tête. J'ai pas parlé de Bordeaux avec son rachat tardif. J'ai pas parlé de Toulouse. C'est quand même bizarre que Casanova revienne.
Mais c'est pour ça que je dis que peut-être ces supporters-là, ils ont peut-être moins hâte que le championnat reprenne, en se disant peut-être que il nous faudrait peut-être 3 semaines de plus pour pouvoir mieux préparer la saison. Tu vois, c'est pour cela que effectivement c'est excitant, mais en même temps je comprends que certains supporters aient un peu de la crainte de savoir que le championnat reprend déjà.
Si t'es un vrai supporter, même quand ça se passe bien avec ton club, t'es excité de revoir ton club jouer.
Il y a quelque chose dont vous ne parlez plus, parce que maintenant on le sait, c'est le Paris Saint-Germain qui sera champion, d'après ce que tu nous dis aussi, même si on a une petite surprise quand même, il y a deux saisons avec la victoire de Monaco. Un championnat où on connaît déjà le champion, ça vous excite?
Mais c'est là où je voulais en venir aussi. C'est vrai que, honnêtement, quand on sait déjà que Paris Saint-Germain va finir pratiquement déjà à Noël et déjà à 15 points d'avance sur tout le monde, je vois pas ce qui est excitant là-dedans.
Je me permets de pas être d'accord avec vous du tout.
Moi, ce qui va être excitant, sincèrement, là-dedans, moi, j'ai envie de voir effectivement un Paris Saint-Germain progresser. Moi, ça m'intéresse plus de voir que Paris Saint-Germain.
C'est la Ligue des champions, hein.
Non. Même au niveau du jeu, au niveau de la conservation du ballon, de la possession, on sait que Paris maintenant est capable de faire ça. Ça, il n'y a plus de discussion là-dessus. Maintenant, on veut voir autre chose.
Ils vont pas laisser le ballon en Ligue 1. Ils vont l'avoir le ballon en Ligue 1. Ils sont dessus techniquement.
Moi je veux qu'ils aient aussi le ballon en Champions League. Mais que il y a quelque chose en plus.
Là, je vais vous dire pourquoi vous vous trompez. Vous vous trompez parce que évidemment le Paris Saint-Germain est largement au-dessus des autres équipes. Il y a pas de souci. Mais premièrement, c'est pas impossible qu'il y ait une surprise. On est à Monaco, on est à Montpellier. Alors certes, c'est deux surprises sur un Rennes qui est quand même assez long, mais c'est faisable. Et ce qu'il faut faut voir surtout. Moi, le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est une vraie locomotive pour le pour notre football français. Je pense que notre football, l'attractivité, il apporte. Le Paris Saint-Germain est un facteur d'attractivité. Et je pense qu'il y a des s'il y a des joueurs qui sont revenus en Ligue 1 récemment ces dernières années, c'est parce que le Paris Saint-Germain offre une belle exposition à la Ligue 1. Et autre chose qu'on dit pas assez souvent sur le PSG. Alors, il y a l'attractivité, il y a la médiatisation, mais mine de rien, je pense que ça tire vers le haut les autres équipes. Ça tire vers le haut les autres équipes.
Est-ce que, à l'inverse, la Ligue 1 n'est pas le boulet du Paris Saint-Germain? Par exemple, en Coupe d'Europe, oui. Puisque tu t'attendais à des beaux résultats du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, est-ce que le fait qu'ils se baladent en Ligue 1 ne pose pas problème
au Paris Saint-Germain? Ça l'a été longtemps. Mais je pense que là, quand je regarde certaines équipes, quand je vois Marseille, quand je vois Lyon, eh ben, je trouve que ces équipes se structurent et je m'attends pas à ce qu'elles concurrencent le PSG dès cette année, mais à ce qu'elles leur offrent une opposition de meilleure qualité.
Je suis pas forcément d'accord avec ta question. C'est pas que, effectivement, que le championnat de France.
Mais tu n'as pas à être d'accord avec une question. Je vais y répondre.
C'est-à-dire que le fait que le championnat de France, puisque toi tu insinues que effectivement le niveau n'est pas assez élevé pour pouvoir
La question.
Mais justement,
est-ce que c'est pas un frein?
Ouais, mais les joueurs du PSG, c'est tous des grands joueurs, c'est des internationaux en puissance. Ils devraient pouvoir se transcender justement dans ces matchs-là.
Oui, mais donc, tu sais à quel point c'est pas évident quand tu vois le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions, c'est aussi parce que dans son championnat il y a des équipes comme le Barça, comme l'Atlético Madrid, faut se battre.
Non, mais très bien. Mais t'as vu que le Real Madrid l'année dernière était largué dans son championnat et ils ont réussi à se transcender en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Ça pourrait pas être possible côté parisien.
Non, mais ce qu'il faut, c'est j'entends souvent dire pour qu'un championnat marche bien et brille sur la scène européenne, il faut qu'il y ait 3-4 équipes qui disputent le titre. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je pense aussi que ça peut marcher si t'as une très grosse équipe et que derrière, t'as quand même 3-4 équipes qui ont le niveau européen et qui se tirent la bourre pour avoir le niveau européen. Et là, on les a. Marseille, Lyon, Monaco.
Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la saison dernière, on a eu une saison exceptionnelle. Maintenant, est-ce qu'on aura deux saisons exceptionnelles de suite? C'est pas sûr parce que effectivement, Marseille, Lyon, Monaco, les trois étaient dans la course jusqu'à la dernière journée pour les places européennes. Ça peut être passionnant. Maintenant, il faut absolument qu'il y ait effectivement cette lutte entre Marseille, Monaco et Lyon et que les trois soient présents.
Et attention à Saint-Étienne, attention à Rennes. C'est quand même des bonnes équipes quand tu regardes la manière dont ils ont fait leur recrutement, la manière dont ils se sont organisés à Saint-Étienne autour de Gasset, à Rennes comment l'étant à réorganiser autour de la Mouchy. C'est deux clubs qui travaillent vraiment, qui ont vraiment dans le bon sens. Donc même si le PSG est au-dessus, je pense que le niveau, on va avoir un niveau qui sera quand même peut-être plus homogène, mais plus homogène vers le haut cette année.
Alors OM à ma vie project qui nous écrit à 21h21 sur l'after pour sur hashtag RMC live nous dit l'année dernière on savait que le PSG serait champion, mais le combat OM OL Monaco a fait de l'ombre à ce PSG qui c'est vrai a fini la saison un petit peu en roue libre après l'élimination en Ligue des Champions. Il précise j'espère que Lyon et Marseille iront loin en Europe comme Rennes. Et puis sur l'appli RMC hein, vous nous écrivez, vous allez sur Direct Studio et directement on a vos messages comme celui de Maxence. Et dans tout ça, le projet lillois ne vous intéresse plus? Est-ce qu'on peut pas avoir une surprise avec eux? Parce que c'est vrai que tu n'as pas parlé de Lille.
Lille, on sait que ça va être sérieux avec Galtier. On sait que l'équipe va être solide. On sait que l'équipe va être chiante à jouer. Mais après, est-ce que on va être enthousiasmé par Lille? Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'émotions en voyant Lille? Je ne sais pas. Mais je demande à juste être surpris. Christophe Galtier est un très bon entraîneur. Il a cette étiquette d'entraîneur hyper défensif parce que 2-3 déclarations un petit peu malheureuses. On s'est contenté de garder le point qui nous avait été attribué au coup d'envoi, ce genre de choses. Et on a vu quelques purges avec lui. Mais ça reste quand même un bon entraîneur et je me demande ce qu'il va faire avec Lille. Mais après, c'est pas parce que je les ai pas cités qu'on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. Mais là, vraiment, dans les 10 équipes que j'ai citées, ces 10 équipes, moi j'ai la certitude que peu importe qu'elles gagnent ou qu'elles perdent, mais on aura de l'émotion dans ce qu'on voit.
Ça et fait je parle du 50%, hein, 10 sur 20, c'est du 50%.
Ouais, mais c'est déjà bien. Oui. Et quand je dis de l'émotion, et j'insiste sur ce mot, c'est par rapport au débat que tu te permets, que tu t'es permis de lancer. Toi,
ben je me
François
permets,
Pounet,
oui, madame, parce
un
que
débat
je
sur Marcelo Bielsa,
c'est moi qui
un débat de questionner Marcelo Bielsa. Donc c'est pour ça que je parle. J'insiste sur le mot émotion. Ça sera mon leitmotiv ce soir.
À 21h40, hein, ne manquez pas. Évidemment, on passe sur le grill. Je sais que t'aimes pas ce mot-là, Marcelo Bielsa.
Un scandale. Non, mais le LOSC, il y a eu quand même énormément de changements quand même au LOSC. Maintenant, il va falloir savoir comment tout ça prend. Il va falloir voir comment, parce que bon, ben leur buteur, celui-là qui a été pris pour marquer des buts. Loïc Rémy, il faut voir dans quelles conditions il est, même si l'année dernière il a bien fini en Espagne.
Oui.
Donc maintenant, oui, il faut voir avec Lille. Ils ont un entraîneur quand même qui a du métier, qui a de la bouteille. Maintenant, il faut voir en espérant que son message passe pour toutes
les équipes. Ce qu'on sait avec Lille, c'est juste ça sera cohérent.
Début de la Liga, vendredi 10 août, on aura l'occasion d'en reparler évidemment dans l'after la semaine prochaine, 20h45, ça commencera par Marseille-Toulouse et ça finira par Paris-Saint-Germain-Caen à 21h le 12 août. On revient dans quelques petites secondes dans l'after, vous restez avec nous avec l'avis tranché de Samuel Hipois. Je crois que Samuel, tu as un message à faire passer aux entraîneurs de Ligue 1. A tout de suite sur RMC BFM Sport.
RMC, l'after jusqu'à 23h, François Pinet.
Le tour de l'after, 21h26 sur RMC BFM Sport. On est ravis de vous accueillir. Si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à vous brancher sur BFM Sport pour regarder Samuel Hipois, magnifique, qui est sorti de son train. Ça fait quelques minutes seulement que tu es sorti. Hein. Tu es passé toute la nuit dans le train. On rappelle qu'il n'était pas là hier, hein, pour ceux qui ont raté l'after.
Tu t'es fait des copines dans le train?
Ah non, moi je... Non, j'ai passé l'âge.
On se sent encore marqué par ces 4 heures passées dans le train quand même. Et on salue d'ailleurs tous ceux qui ont des galères dans les trains parce que c'est vraiment pas évident et c'est pas facile à gérer.
Non mais surtout quand il n'y a pas de clim, il fait chaud, donc c'était un peu
ça devait sentir bon là-dedans.
Jonathan McCarty, lui il sent bon, il est là bien sûr pour parler dans un instant de son idole, de son maître à penser, de son gourou Marcelo Bielsa.
Non.
Ça sera dans quelques minutes.
Quel dédain,
l'Argentin,
François Pinet.
C'est pas du dédain, c'est juste des questions qu'on se pose autour de Marcelo Bielsa. Mais tu devrais être content, il n'y a que lui qui fascine autant comme entraîneur actuellement.
Juste se poser des questions sur ses qualités d'entraîneur.
Eh bien, on en parlera. L'Argentin qui a débuté.
Tu vas passer un stage, non, auprès de lui, non?
J'aimerais, c'est mon rêve.
L'Argentin qui a débuté son aventure avec le club anglais de Leeds en deuxième division anglaise et qui s'est imposé. On en parle dans un instant. Est-ce qu'on peut faire confiance encore au coach argentin? Appelez-nous au 3216, le hashtag RMC Live sur Twitter et l'appli RMC Direct Studio. Mais avant de parler de Marcelo Bielsa, c'est au tour de Samuel Hipois d'être mis sur le grill. Jiggle.
Le voir comme ça en pujala,
pujala. Sinon il était pas pujala, en pyjama peut-être.
pujala, je n'ai pas entendu.
C'était quoi, pujala?
Non, il voulait déjà être en pyjama.
C'est Cyprien qui lâche pas.
Cyprien, il est dur.
Ah, là, il est dur.
Samuel, aujourd'hui, tu as envie de faire passer un message aux entraîneurs de Ligue 1, puisqu'on l'a dit, en début d'after, on est à 5 jours seulement du début de la Ligue 1.
Ouais, j'avais envie de parler un peu des entraîneurs, parce que bon, tu vois, Jonathan, toi, t'es excité un peu sur le fait de revoir un peu la Ligue 1. Moi, par le jeu, les joueurs, ceci, cela, moi, je suis aussi, mon excitation, elle vient un peu, j'ai hâte de savoir aussi comment et qu'est-ce que vont proposer les entraîneurs de Ligue 1. Il y a 3 mois de ça, on était très peu nombreux à penser que l'équipe de France allait gagner le championnat du monde. Maintenant que ça cessait de tous, le championnat de France va être regardé. On va venir voir comment ça joue, comment ça se passe, comment les techniciens font progresser leur équipe, leurs joueurs. Maintenant, les nouveaux entraîneurs qui viennent sur le banc et les anciens, ils doivent se dire que c'est une chance déjà d'être sur un banc de Ligue 1 et en plus d'être dans le pays qui est championne du monde. Et à partir de ce constat-là, ils sont dans l'obligation de faire du spectacle. Ils sont dans l'obligation de faire en sorte que les gens viennent au stade. Ils sont dans l'obligation de faire en sorte qu'il y a du spectacle, qu'il y ait des buts, qui n'ont pas peur effectivement de faire jouer leurs équipes, ne pas avoir peur de prendre 3 buts, qu'il y ait des 4-3, des 5-4. Au contraire, ça va vraiment faire du bien. Maintenant, ce que veulent les supporters, seront en droit de réclamer un football qui ose, un football insolent de générosité, un football qui te soulève, qui te transporte, qui te fasse crier, qui te fasse vibrer, qui te remplit de joie, où il y a de l'engagement, où il y a tout ça, quoi. Parce que presque quand tu rentres à la maison, que t'es fatigué, tu dis bonsoir à ta copine, tu vas directement au lit, tellement que t'as eu de l'émotion au stade,
quoi. Ou alors que ça t'est excité et que tu lui fasses la fête.
Calmez-vous.
Aussi.
Calmez-vous. Bon, on se calme. Carton jaune, Jonathan.
Non, moi je veux plus entendre ces entraîneurs là qui se lamentent là, qui font les victimes. Ah ouais, bon, le recrutement n'a pas été fini à temps. Ceci, cela. T'as eu le temps de te préparer. Tu sais pourquoi t'as signé ton contrat. Voilà, moi j'ai envie de voir sincèrement cette année la France est championne du monde. Faites du spectacle, quoi. C'est tout ce que je veux voir des mecs quand ils rentrent sur le terrain, qu'on voit un état d'esprit, qu'on voit des mecs conquérants, même si effectivement tu peux j'en ai marre de voir ces équipes qui arrivent à Paris et qui se flanquent tous derrière. Ils se flanquent tous derrière, finalement ils perdent 4-0, Et s'il perd 1-0, et tu vois le coach qui se dit, c'est une victoire, mais t'as progressé en quoi? Il y a rien eu, t'as pas eu d'action de jeu, il y a pas eu de frappe.
T'as raison.
Il y a rien eu.
Et les mecs,
voilà.
Jardinière, ce qu'il a fait.
Donc, moi, je veux que ces nouveaux coachs qui arrivent, les Mercadal, les Blacard, les Guillon, il y a des exemples. Il y a eu des exemples de super entraîneurs quand ils sont arrivés qui nous ont montré du jeu.
Il y a
eu
Dalloglio.
Voilà, il y a eu Dalloglio. Il y a Pélissier. Il y a même Bielsa quand il est arrivé. Il a fait il a montré quelque chose d'intéressant.
Non, sa première année, c'était
extraordinaire ce qu'il me l'a montré. Il y a eu Blanc. Il y a eu Lucien Favre. Alors donc, il y a des contre-exemples, mais qui prennent pas cela en exemple. Comprends cela, sincèrement, qui ont apporté quelque chose. Moi, je veux que les Cardozo, les Vieira, apportent quelque chose à la Ligue 1. Progresser la Ligue 1. Comme Tuchel. Tuchel, il est obligé de faire progresser.
Voilà, c'est Tourelle, déjà. En plus, t'as joué en Allemagne.
Mais oui, exactement.
Tourelle.
C'est du Kansas gegen Vanzoville.
Magnifique.
Tourelle. Il est obligé dans l'obligation de faire progresser le Paris Saint-Germain. On peut pas accepter la possession du Paris Saint-Germain. On veut plus de verticalité. Et voilà. Donc maintenant, moi, je veux voir aussi que Blacard de Nîmes. Non. L'année dernière, Nîmes jouait franchement un super football.
Ouais.
J'espère qu'il va oser.
Ah, Bozog devant là.
Voilà, exactement. C'était méchant.
Savani au milieu, c'est pas mal aussi. Hein.
Voilà, qu'il fasse quelque chose.
On va les voir en Ligue 1, à mon avis. Je pense qu'on va être surpris parce que c'est des bons joueurs. Hein,
c'est des très très bons joueurs.
J'ai les larmes aux yeux.
Mais t'as raison.
Donc, bravo.
Nickel.
C'est une. Non, mais c'est vrai que c'est une belle demande. Maintenant, je me demande si c'est pas un vœu pieux.
Non, alors. J'ai apporté juste deux petites nuances, mais parce que sur le fond, on est forcément d'accord avec ce que
tu viens de dire. On a tous envie de voir ça, évidemment.
Moi, je m'attends pas forcément non plus à ce que je vous demande pas à tous les coachs de jouer offensive, qui est de faire des matchs avec des buts, machin. Tout ce que je leur demande, c'est d'avoir de la personnalité, de mettre en place des équipes qui soient cohérentes et qu'elles aient de la personnalité. L'Atlético Madrid, par exemple, on vibre quand on les voit jouer. Mais c'est pas des feux d'artifice à chaque fois, mais c'est cohérent. Il y a un esprit. Je veux que les entraîneurs insufflent un esprit et impriment une patte. Que c'est pas que ça soit neutre, parce qu'il y a trop eu d'équipes dans les dernières années. Tu les vois jouer, c'est neutre. Il y a rien. Tu sais même pas quel est leur type de jeu. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pain, assume et fais-le à fond. Ça, moi, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'il y ait de la cohérence et de la personnalité. Après, là, tu invectives les entraîneurs de Ligue 1, t'as raison, mais moi, j'incite aussi les dirigeants et les présidents des clubs de Ligue 1. C'est eux aussi qui doivent profiter de l'effet Coupe du Monde. Ils doivent en profiter, et ben on en parlait pendant la pub, et j'en ai déjà parlé, ils doivent en profiter pour aller appeler certains joueurs qui sont à l'étranger et leur dire, écoutez, on est dans le championnat champion du monde, il y a un gars comme Mathieu Dubuchy, et ben en début de saison dernière, on vous aurait dit qu'il serait réserviste pour aller à la Coupe du Monde, personne ne l'aurait cru, juste avec un prêt de 6 mois à Saint-Etienne en baissant son salaire, et ben il a failli faire la Coupe du Monde. Et il serait arrivé, je pense, en début de saison, il aurait sauté Sidibé même, je pense. Donc voilà, j'ai envie que les dirigeants.
Sauté Sidibé, tu dis?
Il aurait pris la place de Sidibé.
Ah oui,
Donc d'accord. J'ai envie que les dirigeants.
Traduction.
C'était coquin un peu.
C'était 4 heures dans le train,
entouré de gens avec des odeurs et tout, la transpiration.
Ça
peut comprendre.
Ça.
Non, mais ce que je veux dire, je veux que les dirigeants, ils aient l'audace d'aller chercher des joueurs. Lyon, tu cherches un défenseur central. Mamadou Sakho, il prend un gros salaire, mais Mamadou Sakho, tu lui dis, Mamadou Sakho, écoute, mon gars, tu reviens en France, tu regagnes de la visibilité. On va faire nous un effort pour te donner un bon salaire, toi fais un effort aussi, et peut-être que, on sait pas, tu pourras accrocher une place à l'euro.
C'est bien beau tout ça, je suis d'accord avec vous, mais imaginez-vous dans la tête d'un Michel Derzakarian, dans la tête d'un Alain Casanova à Toulouse par exemple, il va se dire, je suis dans le championnat des champions du monde, alors ça y est, je vais jouer du spectacle.
Non, mais Derzakarian, parce que Derzakarian, c'est peut-être Montpellier, c'est peut-être pas le spectacle à chaque fois, mais l'année dernière, c'était hyper cohérent.
Non,
quand il est passé à 3 derrière, il y avait de la personnalité.
Quand Samuel dit ils sont dans l'obligation de faire du spectacle, ils sont avant tout, excusez-moi, dans l'obligation de gagner des matchs.
On va clarifier
quelque chose parce que la question est intéressante. Qu'est-ce que vous entendez par spectacle? Ouais, c'est ça.
Voilà,
parce que pour moi, le spectacle, voir l'Atlético Madrid jouer avec 11 guerriers sur le terrain et mettre des coups, ça c'est du spectacle aussi. Donc qu'est-ce qu'on entend par spectacle?
Le spectacle, c'est quoi? C'est François, c'est toi qui vas voir un match, tu appelles un copain, tu dis écoute, viens, on va voir Metz, parce que Metz, tu vas voir, quand tu les vois jouer, on peut s'identifier à eux. Mais c'est les mecs qui mouillent le maillot.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Non mais effectivement, je suis. Le spectacle. effectivement, c'est, il faut gagner des matchs. Il faut gagner des matchs. Mais avant tout, c'est le public qui vient te voir. Le public te pardonnera toujours, même si tu mouilles le maillot.
Bien sûr.
Il y a de l'engagement. Il y a de l'envie. Tu rentres avec un état positif.
Et je suis d'accord avec tout ça. Je me demande juste en quoi le fait que la France soit championne du monde, ça va changer l'état d'esprit de ses entraîneurs.
Écoute, François, Samuel a raison. C'est pas, évidemment, c'est un petit peu un vœu pieux à la fois ce que Sam et moi avons fait dans nos avis tranchés. On est d'accord. Mais je pense qu'ils ont une responsabilité. Et la responsabilité est la suivante. On a gagné la Coupe du Monde. Il y a eu un bel engouement autour de cette équipe de France pour toutes les raisons qu'on a déjà pu détailler auparavant dans l'été. C'est une équipe qui représente une génération qui a connu des choses pas très sympas ces derniers temps et ça la représente bien. Il y a eu beaucoup d'engouement et je pense que là c'est le moment d'essayer d'enfin devenir un pays de football. Parce que je suis désolé, la France n'est pas un pays de football pour l'instant. Je pense que c'est le moment de faire en sorte que les gens aient envie d'aller au stade. Je pense que c'est le moment que tous ces petits gamins qui ont vibré là avec l'équipe de France, se disent, j'ai envie de se soutenir un club, j'ai envie qu'on prenne un papa, j'ai envie qu'on prenne un abonnement, que tu m'amènes au stade le week-end et j'ai envie de développer cette passion-là. Et je pense que les entraîneurs et les présidents et les clubs de Ligue 1 en général, ils ont une responsabilité parce que je pense pas qu'en 98 on ait assez capitalisé dessus. Et on n'est toujours pas un pays de football, on n'est pas un pays de sport, on est un pays avec une culture foot qui est quand même très faible encore. Donc je pense là c'est le moment de changer ça.
Et en plus, vous trouvez normal, non mais messieurs, vous trouvez normal que tu joues chez toi et que tu joues encore avec un attaquant? Mais où elle est l'ambition là-dedans? Je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche? Mes deux attaquants. Mais pourquoi pas mes trois attaquants, un peu.
C'est l'intention qui compte. C'est l'intention.
Pas parce que t'es obligé de, tu joues toujours à un système que tu peux pas te dire, bon, ok, je casse mon système, je joue avec deux attaquants. Mais je surprends.
Là,
certains entraîneurs, pendant toute la saison, il joue avec un attaquant.
Regarde les équipes, là. Il y a beaucoup d'équipes qui dans leur match de préparation, ils jouent à trois derrière, ils jouent à deux devant. Il y a quand même des choses qui étaient rares, tu vois.
Alors, là, petit prince du parc,
sur 3-5-2.
Petit prince du parc sur le hashtag AMC Live. 21h37 dans l'after, nous dit Pélissier, Comboiré, Dalloglio font jouer leur équipe. Oui. Lamouchi, c'était pas mal.
Ah oui,
Tourelle va faire jouer son équipe. En revanche, Michel Darzacarian, Casanova, Galtier, Poyet, et Loret, spécialiste de la purge.
Non, Loret, c'est dur. Loret, c'est dur parce que Loret, quand tu vois Strasbourg, je suis désolé, t'as toujours quelque chose qui se passe.
Il y a de l'émotion quand même.
Et puis, c'est une équipe quand même, il y a eu des matchs un petit peu fous quand même. Tu vois,
surtout à la
PSG.
Strasbourg attaque.
Oui, mais c'est même pas juste qu'ils attaquent. C'est que l'équipe a vraiment de la personnalité.
Non, mais
donc c'est pas chiant de les voir Strasbourg. Et Loret, c'est un super coach en plus. C'est pas sympa ce que tu fais là.
Non, mais
c'est bien, mais surtout pas Thierry Loret.
Surtout, je pense que le public de la Méno, il est un peu comme le public un peu marseillais.
C'est la Marseille du Nord, Strasbourg de l'Est.
Ou Lens.
C'est Marseille de l'Est.
Il te pousse à attaquer. Tu vois, ça aussi, je pense que le public joue aussi son rôle là-dessus. Mais il est important, franchement, que cette année, c'est pour ça que pour moi, les entraîneurs, ils ont une énorme pression. Ils ont une énorme pression de faire revenir, que les gens reviennent au stade, que les gens, quand ils partent du stade, ils sont contents, qu'ils soient contents de revenir parce qu'ils ont vu quelque chose. Et même si l'équipe, effectivement, n'a pas pris les trois points qu'il fallait, mais franchement, t'as eu le barreau, il s'est passé quelque chose. C'est bien. Voilà.
D'accord. Je ne soulèverai pas cette
il a dit, t'as eu le barreau, et auparavant, il nous a parlé de rentrer à la maison, voir sa copine et tout.
Ce sont tes propos. Ils ont grillé là hier avec les 4 heures bloquées dans le train, c'est pas possible ça. On va regarder d'ailleurs le programme de cette Ligue 1, on va vous le donner si vous êtes sur RMC. Première journée de Ligue 1, donc on l'a dit, vendredi 10 août, Marseille-Toulouse, vous avez envie de voir ça à
20h45? Surtout moi.
17h, Nantes-Monaco, vous avez envie de le voir.
Cardozo, Jardim, bien sûr.
Voilà. Non, mais surtout... 20h, Lille-Rennes, Saint-Etienne-Guingamp.
Saint-Etienne-Guingamp, bien sûr. Camboiré, Gassé, c'est une équipe qui est pas mal. Et puis moi, j'adore Ola Selnes, donc je suis un peu fou. J'ai envie de regarder Saint-Etienne pour voir Selnes. Non, peut-être pas, mais non, c'est une belle équipe.
Angers-Nîmes, vous avez envie de regarder?
Ah bah, Bozop, oui.
Moi, je vous dis,
Blacard, oui.
Montpellier-Dijon, Nice-Reims, je termine juste le programme pour ceux qui vous écoutent.
Dijon, yo-yo Gourcuff.
Voilà, Gourcuff, dimanche 12 août, Lyon-Amiens à 15h, Bordeaux-Strasbourg à 17h, et on termine par PSG-Caen à 21h.
Eh bah, il y a tous les matchs, j'ai tous envie de les voir.
Samuel, je t'écoute.
J'ai surtout envie de voir Angers-Nîmes, parce que je pense que je vais mettre un petit billet sur Nîmes. Je pense que Nîmes va gagner assez aisément Angers.
D'accord. Donc là, en fait, c'est juste pour faire les paris, quoi. Bon, c'est pas du tout. Tu vas regarder juste pour les paris. Tu vas pas regarder pour le spectacle.
Ah non, parce que
tu nous fais tout un speech en nous disant ça va être magnifique. Il faut que les entraîneurs nous fassent vibrer, etc. Et là, tu parles de paris en disant je vais regarder Angers Nîmes parce que Nîmes.
Parce que Nîmes n'a pas peur de jouer.
Je vais vous rajouter quelque chose sur Nîmes. C'est que il y a je connais le papa d'un des défenseurs qui ont pris Liboy là, qui est un vétéran de Ligue 2. Attention, alors lui, se devoir jouer. Alors il est peut-être pas très fin techniquement, mais attention, alors lui, les pieds, il les envoie. Il les envoie et je pense que ça va être un petit peu marrant. Ça va être sympa de le voir face.
Dans l'after à 21h40 avant de parler de Bielsa sur le hashtag AMC Live. Pour moi, la France va devenir un pays de football avec le temps, car une énorme majorité de jeunes sont fans de foot et les stades vont de plus en plus se remplir. C'est Donatello qui nous dit ça, on l'espère, Donatello. Et puis Thomas, ça c'est intéressant aussi sur le hashtag AMC Live. Le problème, c'est que la France a gagné la Coupe du Monde sans spectacle. Les coachs de Ligue 1 peuvent avoir l'envie d'imiter Didier Deschamps.
C'est vrai aussi.
Ça, c'est une bonne réflexion, c'est une bonne remarque.
C'est vrai aussi, regarde, après 98, ça a influencé une génération d'entraîneurs, de jouer avec trois récupérateurs.
Alors, j'espère qu'ils n'auront pas la décence d'esprit d'imiter ça, pour tout simplement... C'est pas tous les entraîneurs qui ont l'effectif pour pouvoir jouer de cette manière-là. Et il faut pas oublier une chose. L'équipe de France a pu se permettre de jouer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un tournoi. C'est sur 5 matchs. Voilà. Donc, le championnat, c'est autre chose. Les joueurs ne peuvent pas tenir sur cette cadence-là pratiquement pendant 12 mois. C'est pas possible. C'est très long et c'est très usant.
Allez, c'était le mot de la fin pour Samuel Ipoy. Non, tu restes, évidemment, parce que dans un instant, on revient sur la première réussite de Marcelo Bielsa sur le banc de Leeds. On voit Jonathan McCarthy qui frétille déjà d'impatience. Le coach argentin fascine toujours autant. Est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? C'est la question qu'on vous pose. On vous attend au 32-16. Réagissez sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite dans l'After.
RMC, l'After, jusqu'à 23h. François Pinet.
On est de retour dans l'after jusqu'à 23h, toujours avec Sam Ipoy et Jonathan McCarthy. Samuel Ipoy, on le disait juste à l'instant, qui a très bien travaillé son avis tranché. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan McCarthy. Tu peux montrer aux téléspectateurs sur BFM Sport la petite feuille, là, tes petites notes de préparation.
Non, c'est...
Que tu as eu le temps dans le train pendant 4 heures, tu as réfléchi à tout ça.
Il faut que tu prennes le train plus souvent.
Voilà, il faut que tu sois
bloqué. Et tu sois bloqué 4 heures,
parce que c'est très très bien.
4 heures, ça fait épreuve, dissertation, thèse, antithèse, synthèse. On a bien profiter, alors c'est bien. Merci la SNCF.
Je vais leur demander de bloquer le train plus souvent.
L'after remercie la SNCF.
On remercie la SNCF. À 22h dans l'after, il y aura Simone Rovera qui va revenir en pleine forme de ses vacances. Notre drôle de dame qui a écourté ses vacances pour être avec nous ce soir. Exceptionnellement, à 2 semaines de la reprise de la Serie A.
3 mois de vacances,
et bien, lui, il a l'air emballé. On est emballé par la Ligue 1, il a l'air emballé par la Serie A, le championnat italien. Il nous en parle vers 22h. Mais d'abord, on va revoir ce qui s'est passé pour Marcelo Bielsa. Une première très attendue pour l'entraîneur argentin depuis son départ de Lille. Désormais, il est aux commandes de Leeds en deuxième division anglaise. Premier match contre Stoke City et une première victoire, 3-1, avec notamment des buts de cliché de Pablo Hernandez lors d'une première période assez maîtrisée, même très maîtrisée, 2-0 à la mi-temps. Il va finalement y avoir 3-1, un score final. C'est Liam Cooper qui va inscrire le troisième but pour Leeds après un pénalty de Stoke City. Voilà, ça commence bien avec cette victoire à Elland Road, le stade de Leeds qui était plein. Bielsa qui fascine toujours autant, il donne envie de regarder Leeds-Stoke. Moi, j'aurais pas regardé ce match, je l'avoue, si ce n'avait pas été Bielsa. Donc, je l'avoue, honnêtement, j'ai regardé cette rencontre en me disant, il va se passer quelque chose parce que c'est Marcelo Bielsa. Donc, rien que pour ça, déjà, non, mais c'est vrai, rien que pour ça, on se dit que Marcelo Bielsa est un peu différent des autres. Est-ce que d'ailleurs, sur cette rencontre, Leeds-Stoke, est-ce que t'as vu la patte Bielsa, Jonathan? Toi, le grand fan, fanatique même de Barcelone.
On va pas rentrer dans la théorie du système, le 3-3, 3-1-3, etc. Mais ce qu'on a vu, c'est évidemment le style et la patte Bielsa. Sur la première mi-temps notamment, parce qu'en seconde mi-temps, je pense que les joueurs, ils ont encore un petit peu du mal physiquement. Donc ça a un peu coulé physiquement, mais c'était aussi le cas au début à Marseille. Ce qu'on a vu, c'est des attaques constantes, un pressing tout terrain, de l'individuel, des joueurs au marquage individuel, des actions tout le temps, une intensité de dingue,
du déséquilibre aussi,
du déséquilibre, ouais. Oui, évidemment,
parce que parfois il y a pas de souci, mais ça deux contre un défense,
ça c'est le deal, c'est le deal avec Bielsa. Mais ça, je pense que ça va être réglé, parce que c'était 2-3 petits coulissements qui je sais que pour on l'a suivi Bielsa, on sait que ça, ce genre de situation, il aime pas, que normalement la philosophie de Bielsa, c'est de toujours être en supériorité numérique, que ce soit quand tu attaques et quand tu défends. Donc forcément, dans les phases de transition, s'il y a pas le remplacement qui est bien fait, ça marche pas, et donc il y a encore quelques petits déséquilibres. Mais je pense que son équipe est jeune et que ça va s'améliorer. Mais surtout, la force de Bielsa, qu'est-ce que c'est? c'est qu'il va nous faire suivre. Eh, le con, il va nous faire suivre le championnat de deuxième division anglaise et on va regarder tous les matchs de Leeds et on va suivre les résultats. C'est ça qui est dingue avec lui. C'est que le mec, il pourrait aller entraîner une équipe. Je sais pas, moi, en Jordanie, on suivrait ce qu'il fait. Il fascine. Alors moi, il me fascine du bon côté parce que je l'admire. Il suscite une haine et un rejet chez d'autres. Mais quoi qu'il en soit, il ne laisse pas neutre. Et ça rejoint la vie tranchée que t'as fait, Sam. En fait, Bielsa, c'est le football. C'est le football. Et pourquoi c'est le football? Parce que le football, comme ils disent en Argentine, le football c'est un sentiment. Et quand tu regardes le football de Marcelo Bielsa, t'as forcément des émotions et des sentiments. Donc, la question qui me semble un petit peu dédaigneuse, a-t-on raison de faire encore confiance à El Loco? Je suis désolé, elle n'a pas lieu d'être. Parce que si. Oui, évidemment, tu dois lui faire confiance. C'est pas parce qu'il a eu une aventure totalement ratée à Lille qu'il l'a traumatisé. Et pourquoi elle a été ratée cette aventure à Lille? Parce qu'il a été dans un bourbier. Le mec, il a été dans un bourbier.
Ah, c'est pas de sa faute.
Mais il a sa part de tort aussi, parce que tu sais très bien, quand tu prends Bielsa, tu prends un mec qui est quand même difficile à gérer. Là, par exemple, tu sais ce qu'il a fait faire à ses joueurs?
Oui. Vas-y, dis-le.
Il a pris ses joueurs pendant 3 heures et il leur a fait ramasser les déchets autour du stade pour leur dire, écoutez les cocos, ça c'est 3 heures de travail, c'est ce qu'un mec doit payer, un supporter paye, ça représente ce que doit, enfin, le temps de travail d'un supporter pour pouvoir s'acheter un billet pour venir vous voir au stade. On sait qu'il a pété un câble déjà avec ses dirigeants parce qu'ils ont vendu un joueur dans son dos. On sait qu'il est volcanique, on sait qu'il est fou, son surnom c'est El Loco. C'est qu'il y a une raison que ce soit El Loco. Mais à Lille, je suis désolé, à Lille, il est arrivé dans un bourbier, dans un projet qui est pas net avec Lopez. On dit que c'est lui qui a choisi tous les joueurs, etc. Non, c'est pas vrai, c'est Campos qui a choisi les joueurs. Bielsa a acquiescé. Bielsa, son erreur, c'est d'avoir voulu mettre sur la touche les tauliers. Je pense que c'est ça son erreur. Mais quand on regarde ce qu'a fait Galtier après avec ce groupe et ce qu'a fait Bielsa, il me semble que jusqu'à très tard dans la saison, la moyenne de points de Bielsa, elle était plus importante que celle de Galtier. Oui. Donc Lille, c'était une erreur. Il a fait des bêtises à Lille, Mavuba, Enyama, etc. Ça, on va pas revenir là-dessus. Mais quand on voit l'influence et l'impact qu'il a partout où il est passé, tu sais quoi? Regarde les clubs au Mexique qui l'entraînaient. Ils ont encore la marque de Bielsa. Regarde Marseille, s'ils ont vendu autant de bons joueurs. Il y a encore la marque de Bielsa. Regarde l'équipe de France. Benjamin, il y a des joueurs, style Benjamin Mendy. Je pense que sans Marcelo Bielsa, il serait pas en équipe de France, Benjamin Mendy. Et dernière chose, parce que je fais long, mais ça, c'est un peu le cœur qui parle.
bah, on le sent, hein.
Ouais. C'est que Bielsa, regardez juste, même au Pérou, il a une influence. Je vais pas vous raconter, ce serait trop long. Mais même le Pérou, la révolution qu'il y a eu à la tête de la fédération péruvienne, c'est grâce à Marcelo Bielsa, qui a influencé une palanquée d'entraîneurs. Et pour conclure, eh ben, je suis désolé, moi, quand j'entends Guardiola, Verón, Batistuta, Pochettino, qui lui a rédigé une lettre de recommandation pour qu'il ait son permis de travail en Angleterre. Quand j'entends tous ces grands noms, ces grands messieurs du football, en fait, moi qui suis rien. Donc, j'ai fermé ma bouche et juste me ranger derrière eux. Et puis, les haters, comme on dit. C'est même pas moi qui parle.
Attends,
c'est
ils ont même pas parlé. On va peut-être leur donner la parole dans l'after, mais c'est vrai que Bielsa, il y a quand même quelque chose qui est étrange autour de lui. Moi, j'arrive pas à savoir honnêtement si c'est un gourou, voilà, qui ensorcelle, un génie incompris. Peut-être que il dit des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, hein. Peut-être que les journalistes, nous, simples journalistes, nous ne pouvons pas comprendre le langage de Bielsa. C'est possible aussi. D'ailleurs, il s'adresse pas vraiment aux journalistes régulièrement. Il est peut-être plus intelligent que la moyenne. Ou alors, si c'est totalement, et là, attention, c'est une question que je pose, si c'est un escroc, en fait, qui aime bien l'argent, parce qu'il est parti avec beaucoup d'argent, et qui en a profité aussi.
Moi, j'ai découvert Bielsa quand il est arrivé à Marseille. D'accord, on le connaissait un peu de Bilbao, mais là, oui, même avec l'Argentine, mais on l'a vraiment vu travailler, on l'a vraiment vu son savoir-faire. Alors, moi, ce que j'ai vu la première année, les premiers mois, c'était fabuleux, c'était magnifique, on a vraiment vu une équipe, on se demandait même si une équipe française était capable de jouer un peu comme ça, c'est-à-dire un pressing incessant. Ouais. On avait rarement vu ça en France. Donc, après, effectivement, j'apprécie moins quand il quitte deux fois le navire en début de saison comme ça. Ça, c'est le Bielsa que j'aime
deux
pas
fois.
Fort.
Alors, il l'a quitté à Marseille.
Il l'a quitté à Marseille.
Après la première journée, en 2015.
En 2015.
Et on a su pourquoi il avait quitté sur la fin. On a su que...
On va pas refaire, l'histoire de Bielsa avec Marseille.
C'est pas de sa faute, hein.
C'est autre chose à la Lazio où il avait signé et finalement
exactement.
Il n'a jamais coaché.
C'est ça que j'allais dire. Voilà, exactement. Moi, ce que je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le technicien. Je pense que là-dessus, c'est un grand coach, c'est pas un escroc, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire qui est reconnu des plus grands, comme tu viens de le citer.
Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ouais.
Moi, je pense que le problème de Bielsa, c'est dans son management avec les gens d'à côté. Que ce soit, je sais pas, avec le directeur sportif ou avec le président. En tout cas, les personnes qui sont un peu en dehors du cercle du terrain. Je pense que c'est là commencent les problèmes un peu avec Bielsa. C'est-à-dire que Bielsa est un entraîneur qui vit tellement le football.
Voilà.
il vit tellement le football que effectivement c'est un amour, c'est comme quelqu'un qui est trop passionné en amour, c'est-à-dire tu peux pas comprendre sa passion, tu peux pas te dire mais comment ça se fait qu'il est fou de à ce point-là pour pas qu'il arrive pas à se détacher. Et je pense que les gens effectivement qui sont à côté n'arrivent pas à suivre, ne peuvent
et
pas comprendre.
Juste ça, j'ajoute un truc, c'est que on a tous on sait comment ça se passe dans le monde du travail, parfois tu dois avaler des couleuvres. Sauf toi, je l'ai bien dit.
Bravo.
Et je pense que lui, il a son curseur, tu vois, de son seuil de tolérance pour avaler ces couleuvres-là. Je pense qu'il est très, 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 très bas. Et c'est pour ça, en fait, que c'est difficile de le gérer. C'est parce que lui, il dit une chose. Tu lui dis, c'est 6,2, c'est 6,2, c'est pas 6,3. Ouais. Si tu lui dis quelque chose, faut que ça soit précis. Donc
ce qu'il a dit, par exemple, Bielsa, à son arrivée à Leeds, et c'est assez étrange, mais c'est du Bielsa en même temps. Je pense que je suis dans un club plus grand que ce que je mérite. C'est pas de la fausse modestie, je pense.
C'est l'histoire de Leeds, tu la connais.
Et il dit, en fait, c'est vrai que l'histoire de Leeds, vainqueur notamment en 92 du championnat d'Angleterre avec Cantona, ensuite il y a eu des belles années aussi en 2000 avec Kewell et Viduka, notamment les Australiens. Il dit, quand je parle, j'essaie de ne pas plaire aux gens, j'essaie de ne pas mentir. Et j'essaie de dire la vérité.
Ça, peut-être
en
sait.
Fait, il dit trop la vérité.
Bah oui.
Et qu'on est dans une société où il vaut mieux
pas dire la vérité. Attends, c'est pas la société, c'est le monde du foot.
Non, mais surtout quand il dit cette phrase-là, effectivement, quand il dit que je suis dans un club qui est peut-être,
plus grand que moi.
C'est aussi une forme de communication. C'est pour se dire que je suis pas au-dessus de l'institution.
Je sais pas s'il est dans la com.
Je pense qu'il lui, il est pas dans la com.
Oui, mais d'accord. Ah, mais c'est ce que vous croyez. C'est quand même quelque part. C'est quand même un entraîneur qui a beaucoup de bouteilles.
Non, parce que ces mots sont toujours traduits par des actes.
Non, mais c'est quand même un entraîneur qui a de la bouteille. Il a pas mal d'expérience, il sait employer les mots qu'il faut.
Non, je suis pas d'accord, parce que ses paroles sont toujours suivies par des actes. S'il dit que si ça va pas, je me casse, il se casse. Quand il arrive et qu'il dit que, il est toujours en relation avec quand il loue les louanges de l'OM en disant le stade est formidable, tu peux dire oui, bon, il brosse les supporters dans le sens du poil. Quand il s'est barré, quand il s'est barré, tu sais ce qu'il a fait de Marseille? Il est toujours en contact avec les petits magasiniers, avec les mecs qui vendent des maillots à la sauvette, et il leur a envoyé de l'argent, enfin.
21h53 dans l'after, Joris nous attend au 32-16. Salut Joris.
Salut l'équipe.
Bonjour, je parle de Bielsa, toi tu es bielsiste ou anti-bielsiste?
Mais bien sûr, mais quand même.
Tu es bielsiste.
Si on aime le foot, on ne peut pas aimer Bielsa. Ça peut pas aller avec. Si vous aimez le foot, si vous aimez regarder un match avec les poils qui se dressent et attraper, on parle de nos femmes, et attraper votre femme qui est en train de faire ce mot croisé, de la secouer, qui a eu un but à la 93e alors que vous avez mené 2-0, que vous avez gagné 3-2, que vous êtes à la rue, c'est bien ça. Et vous aimez le foot et c'est ça. Donc est-ce qu'il faut lui faire confiance? Oui, à 3000%, même s'il le plantera dans 2 mois, parce que le magasinier n'aura pas lavé les maillots comme il faut et que ça y a pas plu, c'est bien ça. Et il leur apportera quelque chose.
Et tu le sais quand tu le prends en plus, donc t'assumes,
Mais bien sûr, mais ils sont au courant tous. Et Lille, il le savait pas. Lopez, il a dit à tout le monde qu'il avait pris, c'était son meilleur ami bientôt. Alors que pas du tout.
Il te manque Bielsa à Marseille? Joris, il te manque Bielsa à Marseille?
Avec l'an dernier, ça nous a fait un peu oublier, mais bien sûr, même qu'on en a perdu contre Lorient, je le disais au standardiste.
5-2-5-3.
On a cru qu'on allait le gagner ce match. On a cru. Après, on a pris un but bizarre à la fin, mais on allait le gagner. Parce que c'était bien ça. Si c'est notre entraîneur, vous changez, vous allez promener le chien et vous revenez après. Mais là, on était obligé de regarder. Parce que c'était bien ça. Et c'est le football. Voilà. Et moi aussi, je parle avec le cœur.
Merci. Merci beaucoup, Joris.
Et Joris, t'as un
merci. Merci, Joris, d'être passé dans l'after.
Bonne soirée, les gars.
Bonne soirée. Je vais vous faire part de ton amour de Bielsa. Ça divise beaucoup, forcément. Et Bielsa, très rapidement sur le hashtag RMC Live, on va donner la parole à ceux qui trouvent que Bielsa, par exemple, David Champion nous dit Bielsa est un très mauvais entraîneur à Lille, son loft et j'en passe, il a fait n'importe quoi. Bielsa peut pas entraîner sur la durée. À Marseille, ça a duré 6 mois, après ça s'est écroulé. David 2002 qui nous dit
ça s'est écroulé parce qu'Nkoulou s'est blessé. Bielsa et Caillou s'est blessé aussi. Donc,
Bielsa est un professeur et souvent les plus grands profs ne sont pas forcément les meilleurs leaders, mais ils demeurent des modèles. Voilà ce que dit David 2002.
C'est pas
faux. Les théoriciens sont plus des idéalistes que des pragmatiques. Lude qui nous dit Bielsa avait le choix de démissionner de Lille, il n'était pas sous tutelle, à ce que je sache, il savait pertinemment que ce club était engagé dans un processus spéculatif. Et puis CAS ou CAS, le Barça voulait Bielsa pour remplacer Guardiola après Bilbao, il aurait gagné une demi-douzaine de titres, mais il aime les défis, il a refusé.
Et après, juste qu'on peut dire, tu vois, je vais mettre un petit peu, ajouter un petit bémol, dédicace à Flo Gotro. C'est juste que, franchement, je pense que pour construire un projet, je pense que c'est le meilleur entraîneur possible. Parce que tu vois, par exemple, les joueurs qu'il a eu à Marseille, qui sont passés entre ses mains, Ben Mendy, Mboula, et même JJJ, il avait été vendu une somme super importante. Je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs pour ça. Après, pour gagner des titres au très haut niveau, parce qu'il a quand même un palmarès, l'argument, il a pas de palmarès, machin, il a des Libertadores, il a des championnats,
mais
pour avoir un palmarès européen.
Il a pas un énorme palmarès.
Non, bien sûr, mais pour avoir un palmarès européen, je veux bien concéder que son exigence, que sa folie, que son style, hein, parce que continuer d'attaquer quand tu mènes 1 ou 2-0 et que tu finis par perdre 3-2, ça arrive aussi avec Bielsa. Je veux bien concéder que ce style-là est peut-être un petit peu trop extrême pour le très 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 haut niveau européen et pour se construire un palmarès européen.
C'est non, un entraîneur à qui on ne demande pas forcément de gagner des titres. Il a fait revenir le public à Marseille et c'est déjà une grande victoire. À
l'époque, Antonetti, c'est très bien là.
Antonetti à Bielsa, mais on est où là?
On compare pas. Non, mais le problème,
vous savez pourquoi dans la durée, pourquoi Bielsa ça marche pas forcément? C'est parce que ses entraînements, il exige beaucoup, énormément de ses joueurs. Et je pense que il peut éventuellement faire ça simplement avec des joueurs qui ne sont pas forcément des stars. Parce que je pense que effectivement, t'as cité des Djadjedje, t'as cité
des
Mendy. Ah bon, qui?
En Argentine, il a managé des stars.
Oui, mais
après c'était pas tous les jours.
Attends, c'était des stars en devenir.
Et je vais même juste te dire,
Non,
il a eu des superstars.
À
Marseille, il a eu des joueurs avec beaucoup de caractère, qui étaient confirmés, qui avaient fait quelques crasses à leur entraîneur précédent, on va pas citer de nom.
3 secondes.
Mais qui l'a fait progresser et qui maintenant chante ses louanges et qui serait bien resté une seconde saison avec lui.
Pour terminer, sur le hashtag RMC Live, je lis juste cette phrase. La première mi-temps de Bielsa avec Leeds aujourd'hui vaut mieux qu'une saison avec Antonetti, c'est dur. Il s'est donné du plaisir. Espérons une fin heureuse, mais attention au nombre de matchs. On revient dans l'after à 22h, évidemment. Restez avec nous avec Simone Rovera. Il revient de vacances. Il est en pleine forme. Il est chaud comme la braise. Et on est à 2 semaines de la reprise de son championnat préféré, la Serie A. À tout de suite sur RMC BFM Sport dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot.